journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Un pas de côté pour l'administration Trump dans le bras de fer qui l'oppose aux démocrates en plein shutdown. Explication dans un instant de Pierre-Yves Dugas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se penchera dans les heures qui viennent sur le contentieux post-électoral en République démocratique du Congo, correspondance de Kinshasa. En France, les réquisitions du parquet national financier dans l'affaire Fillon. Le parquet a requis un renvoi devant un tribunal correctionnel pour François Fillon et son épouse. Explication de Corinne Audouin. Nous nous rendrons dans trois communes d'élus de l'Association des maires de France qui tentent ou ont tenté de réunir les conditions pour un débat correct et apaisé avec les Gilets jaunes. Et puis invité de cette édition, Nicolas Van Der Beest, blogueur et spécialiste des réseaux sociaux. Quel rôle ont-ils joué, ces réseaux sociaux, dans la dynamique du mouvement ? Trois semaines de shutdown partiel aux États-Unis et aucune concession de part et d'autre, pas l'ombre d'une concession côté démocrate. Et il y a quelques heures encore, la Maison-Blanche faisait planer le spectre de l'état d'urgence. Ce soir, Pierre-Yves Dugas, Donald Trump enterre la hache de guerre, mais le manche dépasse.
Plus le temps passe et plus la pression monte sur Donald Trump, car le shutdown commence à perturber sérieusement la vie et les budgets de 800 000 fonctionnaires fédéraux pris en otage par cette crise budgétaire. Après avoir agité depuis plusieurs jours la possibilité de faire appel à une loi qui l'autorise, au nom d'un état d'urgence, à court-circuiter le Congrès pour trouver des crédits en vue de construire la suite d'un mur à la frontière mexicaine, Donald Trump nuance maintenant son propos. Il se réserve certes le droit d'arguer éventuellement qu'un état d'urgence justifie la construction immédiate d'un nouveau pan de mur, mais pour l'instant continue d'espérer qu'une solution législative sera négociée. L'absence de véritables négociations jusqu'à présent rend cette hypothèse douteuse. À Washington, le dialogue de sourds continue. Un compromis serait pourtant facile à imaginer, mais les républicains restent unis pour le moment derrière leur président, qui pense toujours que le temps joue en sa faveur.
Correspondance de Washington de Pierre-Yves Dugas. En République démocratique du Congo, moins de 48 heures après la publication des résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier, 8 morts dans l'Ouest, 5 civils et 3 miliciens, et cet appel à l'aide lancé à l'ONU par la commission électorale, la CENI qui demande aux Nations Unies de soutenir les autorités élues. L'opposant Félix Tshisekedi, rallié de la dernière heure à Joseph Kabila, a été déclaré vainqueur. Une victoire contestée par un autre opposant au président sortant, Martin Fayoulou, qui s'apprête à saisir la Cour constitutionnelle. Martin Fayoulou, soutenu par la puissante Église catholique congolaise, qui demande un recomptage des voix. Anthony Fouchard est à Kinshasa.
Au lendemain de la proclamation des résultats, Martin Fayoulou a réuni ses militants à Kinshasa. Une sorte de meeting politique, autant pour contenir ses troupes après les violences qui ont émaillé la journée d'hier, que pour annoncer sa volonté de ne pas se laisser voler sa victoire, dit-il. La différence de voix entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur provisoire, est de moins de 700 000. Or, quelques jours avant le scrutin, la commission électorale a exclu du vote plus d'1 200 000 électeurs, dans des zones touchées par Ebola notamment. Des régions considérées comme des bastions de l'opposition. Martin Fayoulou demande donc le recomptage manuel de tous les bulletins, et surtout que le vote soit organisé partout sur le territoire. Pas sûr que sa requête aboutisse, la Cour constitutionnelle est réputée acquise au régime du président sortant. Quoi qu'il en soit, si l'élection venait à être annulée ou si un nouveau vote partiel devait avoir lieu, c'est bien Joseph Kabila qui en sortirait gagnant. C'est lui qui reste au pouvoir jusqu'à la proclamation définitive d'un nouveau président.
Le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés se dit ce soir profondément préoccupé par les informations qui lui parviennent de l'est de la Syrie, où les combats entre djihadistes et forces démocratiques kurdes auraient précipité sur les routes de l'exil 25 000 personnes. Une militante palestinienne atteinte à la tête par des tirs israéliens décède près de la frontière de Gaza. Plus de 220 Palestiniens ont été tués depuis le début du mouvement du 30 mars dernier. Ces manifestations du vendredi en faveur d'un assouplissement du blocus israélien et du droit au retour sur les terres perdues lors de la guerre de 1948 au moment de la fondation de l'État hébreu. En France, le parquet national financier a donc requis le renvoi devant un tribunal correctionnel du procès de François Fillon et de son épouse Pénélope dans l'affaire des emplois présumés fictifs de cette dernière. Même réquisition pour l'ancien suppléant parlementaire de François Fillon, Marc Joulot, également mis en examen dans ce dossier. Les précisions de Corinne Audouin.
Les avocats des époux Fillon n'ont pas encore reçu ce réquisitoire, mais le PNF confirme avoir demandé à ce que François et Pénélope Fillon soient jugés, ainsi que Marc Joulot, ancien député de la Sarthe, pour des faits notamment de détournement de fonds publics et d'abus de biens sociaux. On s'en souvient, tout était parti des révélations du canard enchaîné en janvier 2017 sur les curieux contrats de l'épouse de François Fillon entre 1998 et 2002, puis entre 2012 et 2013. Pénélope Fillon est rémunérée comme attachée parlementaire de son mari député. De 2002 à 2007, François Fillon étant Premier ministre, Pénélope Fillon devient la collaboratrice de son suppléant Marc Joulot. L'affaire avait coûté l'élection présidentielle au candidat de la droite. Après 2 ans d'enquête donc, le parquet estime que Pénélope Fillon n'a fourni aucun travail tangible, ni pour son mari, ni pour son suppléant. En revanche, le parquet ne demande pas le renvoi des enfants du couple Marie et Charles Fillon, un temps employés par leur père comme collaborateurs au Sénat. Ils ont pu fournir des preuves de leur activité. Désormais, il appartient au juge de suivre ou non les réquisitions du parquet. Et le procès des époux Fillon pourrait se tenir au vu des délais d'ici la fin de l'année.
Une information de nos confrères de France Info. Le ministre de l'Économie et des Finances interdira à la mi-avril l'utilisation du dioxyde de titane, un additif nommé E171. Interdiction, quelles que soient les conclusions de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de l'environnement, ce produit qui entre notamment dans la fabrication de confiseries, de gâteaux et de plats cuisinés pourrait être cancérogène en raison des nanoparticules qu'il contient. 3 grandes entreprises optent pour une prime de fin d'année défiscalisée et non soumise aux cotisations sociales, dont la création avait été annoncée par Emmanuel Macron en décembre. Renault, Carrefour et ArcelorMittal. Annonce providentielle, hasard du calendrier, accélération bienvenue dans tous les cas. Pour l'exécutif, tout au débat national de lundi prochain, débat mis sur orbite par la lettre du président de la République aux Français, publiée ce même jour. Débat dont les modalités restent inconnues. Son organisation a été confiée au Premier ministre, Édouard Philippe, qui a reçu aujourd'hui les syndicats sans leur donner la moindre précision sur cette initiative censée apaiser les esprits. L'association des maires de France a, elle, refusé de s'impliquer. Certains de ses élus veulent toutefois jouer le jeu et organisent dès maintenant des débats. C'est un reportage de Laurent Sénéchal.
La commune de Joigny, dans l'Yonne, dit avoir été précurseur sur les cahiers de doléances ouverts dès le début du mouvement. L'équipe municipale d'Union des Gauches aurait voulu que les citoyens eux-mêmes organisent des débats, mais personne ne s'est en proposé. C'est la mairie qui va s'en charger, comme l'explique le premier adjoint Nicolas Sauré.
Ça veut dire l'animer, faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, d'éviter les débordements de vocabulaire éventuellement s'il y en a.
D'autres, comme Nathalie Niaison, la maire d'hiver gauche de Bourg-de-Péage dans la Drôme, ont décidé d'organiser une journée spéciale. Le 26 janvier prochain.
J'ai l'intention de recevoir toute personne qui aura des doléances en tête à tête dans le salon d'honneur, sous la Marianne, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait de la symbolique.
Cette journée se terminera par un débat public. Lui n'en a pas organisé un, mais 13, avec le concours des Gilets jaunes. C'est le maire UDI de Paimpol, dans les Côtes-d'Armor, Jean-Yves de Chaise-Martin. Le premier de ces débats a eu lieu mardi.
Une réunion publique qui a réuni plus de 300 personnes à l'initiative des Gilets jaunes, et on a pu voir des idées très variées, souvent contradictoires. C'est l'occasion de les faire passer.
En attendant le grand débat, et dans le même état d'esprit, l'Association des maires ruraux de France organise la remise solennelle des cahiers de doléances lundi après-midi à l'Assemblée nationale.
Ces élus qui tentent de renouer le dialogue usent de moyens traditionnels pour réirriguer le débat. Il existe d'autres forges. Ce mouvement des Gilets jaunes a bien pris son envol sur les réseaux sociaux pour prendre différentes formes au fil du temps. Nous sommes, comme convenu, en ligne avec Nicolas Van Der Biest. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes blogueur, spécialiste des réseaux sociaux. Quel rôle ont joué ces réseaux sociaux au début du mouvement ?
Ils ont joué un rôle prépondérant de catalyseur, c'est-à-dire que ça catalyse et ça permet d'organiser le mouvement petit à petit. Si vous regardez vraiment la création et la naissance du phénomène des Gilets jaunes, dans un premier temps, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, vous avez vraiment très très peu de conversations. Il faut vraiment attendre plus d'une semaine avant que le grand pic démarre, et il faut attendre 9 jours après le mouvement sur les réseaux sociaux pour qu'on atteigne un volume absolument considérable, puisque vers le 17 novembre, on va atteindre les 750 000 tweets. Un mois après, on en était déjà à 10 millions de tweets. C'est-à-dire que petit à petit, des gens rejoignent, à l'instar des carrefours, des espaces numériques où ils peuvent interagir, s'organiser, avoir des mêmes slogans. Et la force des Gilets jaunes, c'est finalement le fait que tout le monde pouvait s'y retrouver, puisque tous les argumentaires pouvaient correspondre, et la vie chère, c'est le quotidien de tout le monde.
Mais attendez, Nicolas Van Der Beest, vous dites, bon, chemin faisant, le volume a augmenté, le volume d'échanges, le volume de propos, donc la masse critique a augmenté. Et est-ce qu'on n'est pas passé de la libération de la parole citoyenne à un espace quelquefois de lynchage sous couvert de l'anonymat ?
Pas forcément de lynchage, puisque dans un premier temps, on est dans la structuration d'un mouvement où les gens se rassemblent, s'organisent, font des événements, font l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Donc le lynchage, il est dans la rue éventuellement, mais il n'y a pas de preuve de lynchage, où qu'il soit.
Il y a quand même eu des menaces de mort, il y a quand même eu des propos venimeux, voire plus, menaçants, via ces réseaux sociaux.
C'est finalement le propre de tous les mouvements qui finalement catalysent un maximum de gens, c'est que quand vous avez une épreuve d'abord d'organisation, et c'est quelque chose qu'on observait particulièrement dans les attentats, où les gens s'organisaient, se rassemblaient et adoptaient un mouvement commun, « Je suis Charlie », Pray for Paris et autres s'organisaient, et petit à petit la déstructuration s'opérait avec non, moi je Pray for Paris c'est trop religieux, je suis Charlie, ok, mais Charlie c'est quoi, et on commençait à avoir des débats. Ben c'est à peu près la même chose. Au début il y a une organisation et tout le monde commence à s'organiser, il y a un tout commun qui est, et petit à petit il y a des structurations, des gens qui sont pas d'accord sur les mêmes arguments, mais aussi des anecdotes et des gens individuellement qui adoptent un certain type de comportement qui évidemment n'est pas le propre de tout, et qui à propre peuvent être récupérés comme étant représentatifs d'un mouvement.
Est-ce que les réseaux sociaux, Nicolas Van Der Beest, sont un outil de mesure fiable d'une masse critique, quelle qu'elle soit ?
Non, mais il est un outil de mesure du militantisme, puisque on a là sur les réseaux sociaux, en tout cas dans la face observable, il y a toujours Facebook évidemment, mais dans la masse observable, c'est généralement sur Twitter, c'est essentiellement du militantisme des personnes aux catégories socio-professionnelles supérieures et des gens qui ont en tout cas un intérêt pour la politique. Et donc le volume de tweets, tout en n'étant pas un indicateur de représentativité ou quoi que ce soit, est au moins un indicateur de militantisme.
Et vous nous dites que finalement c'est un outil qui favorise la politisation, c'est un outil de politisation, c'est un accélérateur de ce point de vue.
Oui, c'est de toute façon un accélérateur de mouvements et un accélérateur de mouvements sociaux, puisque ça permet de s'organiser, de se rassembler à un espace. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les premiers moments des Gilets jaunes. On a des égéries qui capitalisent beaucoup de personnes, par exemple sur Facebook, qui ont énormément de gens qui regardent leurs vidéos, et qui donc sont devenus des espèces de carrefours d'audience, comme le sont finalement les politiques.
Les médias traditionnels aussi, et les médias traditionnels.
Les médias traditionnels également aussi. Ils rassemblent une audience autour de certains narratifs et de certaines choses, certaines thématiques. Les gens sont habitués, se sont abonnés et donc reviennent au même endroit, comme l'acte 1 et l'acte 2, l'acte 3, et consomment le média au même moment et au même endroit. Et après, évidemment, on peut dire tout et n'importe quoi à propos des réseaux sociaux et des chiffres, puisque finalement, on essaye de généraliser et de rendre statistiques des mouvements de foule et des mouvements d'opinion, alors qu'en fait, c'est très très compliqué de dire qui sont les Gilets jaunes, quels sont leurs arguments, quel est le volume, est-ce que c'est représentatif, est-ce que ça représente la société, est-ce que ça représente un mouvement global, etc. En quelque sorte, jusqu'à présent, les réseaux sociaux et autres avaient été surtout un espace, je parle surtout en France et pas dans d'autres pays, mais un outil de slacktivisme, c'est-à-dire qu'on s'activait numériquement par la force du clic, et on avait des travailleurs du clic qui signaient des pétitions numériques, qui tweetait, et que finalement cet activisme avait une grosse difficulté à se déporter de façon physique, à part évidemment avec Nuit Debout. Et là, on a à la fois des énormes volumes numériques, mais aussi des gens qui se sont vraiment mobilisés en masse physiquement et qui ont créé un vrai phénomène de mouvements sociaux.
Merci à vous, Nicolas Van Der Beest, blogueur pour Reputation Lab et spécialiste des réseaux sociaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Appel à une journée d'action nationale jeudi prochain, lancée ce soir par plusieurs organisations syndicales lycéennes et des personnels de l'éducation. Journée censée préparer une grève qualifiée de massive le 24 janvier. Entre autres revendications, le retrait de la réforme des lycées, du baccalauréat et de Parcoursup. Le temps de demain, samedi, nuages, grisailles et précipitations au nord. Du soleil sur les bords de la Méditerranée, température minimale comprise entre 2 et 6 degrés de la frontière belge à la Bretagne et Pays de la Loire. Moins 5 à moins 1 de l'Auvergne au Languedoc et à la Provence. Moins 2 à plus 3 degrés ailleurs. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Alex Dang.